Ça a été dur d'apprendre à comprendre mon fils. Ça n'a pas été difficile de me sentir papa. Ma compagne, elle m'a vraiment laissé cette place. Et pour nous, c'était important qu'on ait tous les deux un rôle égal. En fait, d'une semaine à l'autre, ce rythme change complètement. Il faut se réinventer. Et ça, c'est très enrichissant.
Être père aujourd'hui, à l'heure de la crise sanitaire. Le réseau de périnatalité Auréane donne la parole au papa en période post-natale. Devenir père est une étape particulière, chargée d'intenses émotions positives, mais parfois de doutes, voire de craintes. Dans une société en pleine évolution, la place des pères change, son rôle aussi. Le père est ainsi souhaité plus présent auprès de son bébé, dans un partage des tâches avec la mère, comme en atteste l'allongement récent à 28 jours du congé paternité. Mais qu'en est-il réellement? Et est-ce que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact sur le devenir père? 20 papas habitant dans les Hauts-de-France ont accepté de partager avec nous leur vécu et la réalité de leur expérience.
Je suis avec le docteur Kevin Leduc, qui est l'heureux papa d'un petit garçon qui s'appelle Lucien, qui est né en octobre 2021. Comment vous avez vécu la période de grossesse de votre épouse ?
Tout d'abord, merci de m'avoir proposé d'enregistrer ce podcast avec vous. C'est un vrai plaisir de pouvoir témoigner de ma paternité. Je m'appelle donc Kevin Leduc, j'ai 30 ans. Je suis pédiatre dans le service de néonatologie à Jeanne de Flandre à Lille. Et depuis le 3 octobre, je suis papa d'un petit Lucien qui a maintenant 5 mois et demi. On a appris la grossesse de ma femme en janvier 2021. Ça allait faire bientôt 15 ans qu'on était ensemble. Ça a été un vrai bonheur, ça allait faire presque un an qu'on essayait d'avoir un bébé. Et très vite, la phase de bonheur pour moi a été suivie d'une phase de stress important qui nous a suivis pendant toute la grossesse. Parce que du fait de mon métier, je connaissais un petit peu toutes les complications qui pouvaient arriver sur la prématurité, même quand on passait le cap de la prématurité, les complications qui arrivaient à terme. Ça a été compliqué, même si dans l'ensemble, la grossesse s'est très bien déroulée sans aucun problème.
Vous me parlez de stress. Quels sont les symptômes que vous avez pu ressentir pendant cette période de grossesse ?
Physiquement, rien de particulier. Beaucoup de cogitations, beaucoup de remises en question sur la grossesse qu'on espérait, sur l'enfant qu'on espérait avoir. Voilà, ça a été beaucoup de questionnements, avec parfois des difficultés à s'endormir ou des préoccupations dans la journée. Au deuxième trimestre, Le fœtus avait pas une courbe de croissance qui était parfaite. Il était légèrement en dessous des courbes. Donc, on a dû consulter un obstétricien à ce moment-là pour refaire les échographies, rapprocher le suivi. Et puis, finalement, tout était bien. Et voilà, ça a été beaucoup d'interrogations, une remise en question de notre quotidien dans la dynamique des 1000 jours pour la santé, sur le contrôle des perturbateurs endocriniens, des toxiques de l'environnement, de l'impact du stress parental sur la croissance du fœtus. On a essayé d'appliquer un petit peu tous ces principes-là. Donc il y a eu une restructuration de notre quotidien à ce moment-là.
Et alors, nous étions en pleine période de Covid. Est-ce que vous avez eu peur pour votre épouse, pour le fœtus ?
Peur, pas forcément. Ma compagne était vaccinée. Il y a eu la deuxième vaccination après le premier trimestre de grossesse, qui l'avait beaucoup fatiguée à ce moment-là, pendant 48-72 heures où elle avait un état grippal après la vaccination. Mais on savait que c'était une bonne chose parce que les risques de faire un Covid pendant la grossesse étaient plus importants que la vaccination. On a restreint les visites des amis, on a fait attention quand on est en contact avec d'autres gens, mais on n'a pas eu forcément d'angoisse lié au Covid.
Est-ce que vous avez pu suivre les différentes échographies, être présent aux différents suivis médicaux, aux examens médicaux?
Ouais, ça c'était important pour nous, pour moi, de pouvoir être là. Et donc j'ai la chance d'avoir des collègues qui ont vraiment été chouettes et qui, quand on a su les dates des échographies, on s'arrangeait dans la journée ou c'était le matin pour que je puisse être là aux quatre échographies. Moi, j'appréhendais un petit peu les échographies aussi et des malformations qui pouvaient être présentes. Donc, j'ai pu être là à toutes les échographies, aux consultations.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti à la première échographie ?
J'ai pleuré. C'était chouette de voir, même si on connaît tout ça, de pouvoir découvrir ce bébé qui est en cours de croissance dans le ventre de la femme qu'on aime.
À quel moment vous êtes senti papa ?
Très vite dans la grossesse. Déjà, je me suis senti investi dans un nouveau rôle et puis avec déjà une modification de mon quotidien et de mes préoccupations principales. Je sais qu'on dit souvent qu'on se sent père quand on le voit en vrai à la naissance. Ça n'a pas forcément été mon cas, où je me suis très vite projeté dans des réflexions comme quel papa j'avais envie d'être, quelle relation j'avais envie d'avoir avec mon enfant. Et forcément, par contre, tout ça éclate au moment où on le rencontre à la naissance, où là, je me suis senti papa réellement, quoi.
Est-ce que vous avez participé au cours de préparation à l'accouchement ?
Non, parce que c'était en journée pour le coup, et il y avait une partie qui était réservée aux femmes, et il y avait un ou deux cours qui étaient proposés, où là on a pu les faire dans la soirée, où j'ai pu assister à ce moment-là.
Donc vous avez assisté à l'accouchement ?
Oui.
Et comment ça s'est passé ?
C'était un vendredi soir, en fait, au rentrant du travail. Claire le sentait moins bougé, elle n'avait pas senti bouger de la journée. Et donc, dans le doute, on a préparé nos affaires et on est allé à la maternité. Et là, il y a eu un vrai pic de stress, en fait. À cause du Covid, j'ai dû attendre dans la salle d'attente. Elle est rentrée, elle a eu une échographie, elle a eu un monitoring. Et donc, pendant 45 minutes, une heure, elle m'envoyait des SMS pour dire que tout allait bien. Et puis, elle me dit qu'elle a un dernier examen et on va pouvoir rentrer à la maison, que le bébé bouge très bien. Et en fait, au moment de cet examen, elle se met à saigner de façon assez importante. Et donc là, pendant moins une demi-heure, j'ai pas trop de nouvelles. J'attends qu'elle arrive. Et en fait, j'ai le médecin qui venait de l'examiner qui vient me chercher en me disant vous allez venir avec nous, on doit éliminer le benchiseur. Votre femme saigne beaucoup. Alors, quand on n'est pas du métier, on se dit j'imagine que c'est déjà extrêmement stressant. Le benchiseur, en fait, il y a une chance de décès qui est très importante et pour le bébé et pour la maman, sur un saignement qu'on n'arrive pas à tarir. Et il faut faire naître le bébé en extrême urgence à ce moment-là. Mais en fait, je comprends après que c'est la réflexion du médecin à ce moment-là en se disant « il faut éliminer l'urgence vitale ». Donc je découvre ma femme qui est en tenue d'hôpital avec beaucoup de monde autour d'elle, en train de lui poser des voies veineuses, se préparant à une césarienne en urgence. Puis finalement, les saignements se tarissent. Et donc pendant une douzaine d'heures, la nuit, on reste en salle d'accouchement à attendre avec un monitoring en continu. Et en fait, notre chance, c'est que le bébé tolère très bien ça. Il a un très bon rythme cardiaque, il ne fait pas d'anomalie de rythme. Donc le matin, je ne savais pas encore si on rentrait à la maison ou pas. Et moi, j'étais de garde à l'hôpital 24 heures après. Donc je suis un petit peu dans l'attente. Et puis finalement, on interpelle quelqu'un en disant qu'est-ce qu'on fait ? On rentre ou pas ? Et là, on nous dit, mais attendez, non, bien sûr que non, vous êtes hospitalisé. Votre enfant va naître, soit on déclenche, soit on se laisse 24 heures, mais... vous ne rentrez pas à la maison. Donc toute cette période-là a été en fait très stressante. Le samedi, on a attendu toute la journée. En fait, il y avait beaucoup de monde au bloc. Donc on était en grossesse pato à attendre. Et finalement, la journée a été plutôt agréable parce qu'on s'est retrouvés tous deux avec ma femme. Elle ne saignait pas. Donc on a pu se préparer petit à petit à se dire « Ok, il va naître, ça va être maintenant. » Il était à terme. Tout allait bien, donc on a essayé de prendre du temps pour nous. Et puis le dimanche matin, elle est descendue en salle, son col se préparait, et en quelques heures, Lucien est né, et finalement tout s'est bien passé.
Est-ce que vous vous êtes senti bien entouré émotionnellement par l'équipe des professionnels ?
Ouais, on était à Roubaix, à la maternité de Roubaix, et tout le personnel a été formidable. Que ce soit paramédical, les sages-femmes, les obstétriciens, ils sont venus à plusieurs reprises voir, ne serait-ce que pour nous donner une écoute. Les pédiatres aussi, le samedi, étaient venus pour discuter avec nous. Ça a vraiment été une équipe extrêmement bienveillante qui a été là pour nous. Et on s'est sentis en confiance.
Est-ce que vous avez bénéficié d'un contact peau à peau avec votre petit garçon ?
Oui. Alors, à la naissance, Claire l'a eu, bien sûr, sur elle. Il a tété au début, et puis en remontant en chambre, elle était un petit peu fatiguée, et donc moi, je l'ai eu en peau à peau contre moi. C'est quelque chose qui était vraiment extrêmement important pour nous tous. Et les trois premiers jours, en fait, de vie, on a vécu en peau à peau. Lui était tout nu et nous on était torse nu et on l'a eu vraiment 24h sur 24 pratiquement en peau à peau juste pour le changer ou lui donner le sein, mais il a été en peau à peau sur nous les premiers jours.
Donc on était en période de Covid, vous êtes resté à trois dans cette chambre pendant combien de jours ?
On est resté 5 jours parce qu'ils nous ont gardé un jour de plus parce qu'au décours d'une séance de peau à peau, je devais libérer beaucoup de chaleur et Lucien a fait de la fièvre, il a fait un 38. Là aussi, pour moi, je m'imaginais donc infection, antibiotiques, perfusion, prolonge d'hospitalisation. En fait, non, c'est moi qui irradiais beaucoup trop de chaleur. On a recontrôlé et finalement, tout était bien, mais on est resté 5 jours. Ça, je pense que c'est quelque chose de positif du Covid. On était tous les trois.
Donc les visites de la famille ne vous ont pas manqué ?
Non, pas à ce moment-là. Je sais que ça a été dur pour ma belle-mère qui s'imaginait pas ne pas venir à la maternité. Pour nous deux, ça a été quelque chose de bien, de pouvoir atterrir, de rencontrer notre fils, de prendre nos marques. Lucien, il a été vite qualifié de bébé intense, à beaucoup pleurer, à avoir du mal, à être cocooné, à se réassurer lui-même. Il pleurait vraiment énormément. Et donc, il nous a fallu du temps pour le connaître. Et on a été très bien entourés pour ça à Roubaix aussi, qui nous ont montré des écharpes de portage, comment l'aider à se regrouper, le premier bain, tout ça. Et on avait vraiment du temps pour nous. Et ça, ça a été bien.
Vous êtes rentré donc au bout de 5 jours à la maison. Comment vous vous êtes senti, vous, au retour à la maison ?
Lucien allait bien, donc j'étais confiant sur son état de santé. J'étais content de rentrer à la maison, de pouvoir vivre notre nouvelle vie. Je me souviens, on est rentré, la première chose qu'on a fait, c'est de le prendre en écharpe de portage et de nous faire à manger. Il faisait beau ce jour-là et on a mangé dans le jardin avec Lucien en portage qui s'était endormi contre nous. Après, on allait faire une balade, on a promené notre chien ensemble. Et ça, c'était les premiers jours à la maison ont été chouettes.
Et vous avez trouvé facilement votre place en tant que papa auprès de votre bébé ?
Oui. Claire, ma compagne, elle m'a vraiment laissé cette place. Et pour nous, c'était important qu'on ait tous les deux un rôle égal. Enfin, égal, ça n'a pas vraiment de sens. Elle peut lui apporter ce que moi, je ne peux pas. Et inversement, mais on avait chacun notre rôle. Et oui, j'ai pas eu de difficultés. Ça a été dur d'apprendre à comprendre mon fils. Ça n'a pas été difficile de me sentir papa.
Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés après dans la gestion du quotidien, les pleurs, le sommeil, l'alimentation de Lucien ?
Ouais. Les premiers mois, ils ont été durs. Ma femme l'a allaité. Elle a vraiment donné, elle a eu à une semaine de vie une baisse de lactation avec une mastite. Où à ce moment-là, on n'a pas trouvé de soutien pour mettre en place un tire-lait rapidement. Donc la lactation a continué de baisser. Une fois qu'on a réussi à avoir un tire-lait, il a mis 7 jours à arriver parce qu'il y avait un jour férié, parce que c'était le week-end, parce qu'en situation de Covid, il n'y avait pas de prestataire qui venait chez nous. On l'a reçu par la poste sans manuel d'explication. Alors moi, je connaissais, mais... Malgré tout, je ne me sentais pas médecin à ce moment-là, je ne me sentais papa. Et la lactation a redémarré un petit peu, mais pas complètement. Et donc Lucien, il n'a pas grossi assez, avec un bébé qui pleurait énormément, où en fait, on n'arrivait pas à subvenir à ses besoins essentiels. Et donc, il dormait très très peu. On le posait 10 minutes, il s'endormait, puis il se mettait à hurler au bout de 20 minutes. On n'arrivait pas... Pour moi, c'était impensable de le mettre autrement que dans un lit cododo, dans une turbulette, à plat dos. Pour moi, c'était essentiel dans les règles de sécurité d'endormissement de l'enfant. Et puis finalement, au bout d'une semaine de nuit blanche, on trouve d'autres façons de faire. Et donc, en fait, on l'avait en portage et on dormait assis avec un coussin d'allaitement autour pour être un petit peu en sécurité. Mais on dormait moins de 3 heures par nuit au début. Et donc finalement, c'est notre pédiatre, le docteur M, qui au bout d'un mois, elle nous voyait toutes les semaines et voyant que voilà, Lucien prenait pas assez de poids et pleurait vraiment énormément. Et moi, à ce moment-là, j'étais à bout. C'est-à-dire que je me disais, il faut qu'on trouve une solution, sinon je vais craquer. Il pleurait en permanence, plus de 15 heures par jour. Et vraiment, je sentais qu'à ce moment-là, j'allais pas tenir. Et puis, on a introduit du lait artificiel. Et puis, il s'est calmé, il a grandi, il a eu moins de reflux aussi en grandissant. Et c'est au bout de 3 mois de vie qu'on a vraiment trouvé nos marques avec un bébé qui est devenu vraiment confortable, à sourire, à avoir une interaction qui est super. Et aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle chose qui m'est soit arrivée dans la vie d'être papa, quoi.
Est-ce que vous avez bénéficié d'un congé paternité ?
Oui, j'ai eu la chance d'avoir un mois. Dans la réforme des 1000 jours pour la santé, avec le congé paternité qui s'est allongé à un mois en juillet 2021, faisant partie du FHU 1000 jours, c'était pas pour ça que je prenne pas un mois. Et puis moi, j'avais envie de prendre un mois. Tout le monde autour de moi m'a soutenu là-dedans. Donc, faut savoir qu'à l'hôpital, quand on est en congé paternité, on n'est pas remplacé. Il y a peu de médecins qui font notre métier aujourd'hui en tant que néonatologue. Donc, j'ai pas été remplacé. Donc, c'est les collègues qui ont absorbé la surcharge de travail pendant un mois. Lucien prenait pas beaucoup de poids, et donc en revenant au bout d'un mois, mes collègues ont eu vraiment l'extrême gentillesse, et j'en profite d'être enregistré pour les remercier, de me donner 15 jours de plus. Et donc j'ai eu un mois et demi à la maison, avec Claire et Lucien.
C'était suffisant ce mois et demi ?
Non. Non. C'est devenu vivable au bout de 3 mois. Et donc quand je reprends le travail au bout d'un mois et demi, je suis épuisé parce qu'on dort 3-4 heures par nuit, Lucien grossit pas bien, pleure toujours beaucoup. Et donc j'ai vraiment l'impression d'abandonner ma femme à ce moment-là. Chose, je pense, qui, quand on s'arrête 3 jours, on peut pas ressentir ça parce qu'en fait on se rend pas compte des difficultés que notre conjointe vit quand elle est toute seule. Mais quand on a vécu un mois et demi, on s'est rendu compte de tout ça. Et donc on a l'impression de fuir. Et en même temps, on revit un petit peu parce qu'on reprend une activité sociale. On se noie un petit peu de nouveau dans le travail et donc on oublie un petit peu la situation. Et en même temps, il y a beaucoup de culpabilité. Donc tout ça se mélange et c'était pas facile à vivre. Mais finalement, Claire a elle aussi repris le travail. Au bout de 3 mois et demi, Lucien a commencé à grossir, à dormir et donc c'était mieux à ce moment-là.
Et comment vous arrivez aujourd'hui à concilier justement votre vie professionnelle et votre vie familiale ?
C'est compliqué parce qu'on a un métier qui est très prenant. On travaille pas moins de 70 heures semaine, entre 70 et 90 heures semaine. En plus, j'ai des projets à côté qui demandent de ma part un certain dévouement à mon travail. Avec avant des habitudes qui étaient de travailler chez soi quand on rentrait le soir, jusqu'à 23 heures, jusqu'à minuit, chose que je ne fais plus. C'est-à-dire que là, la journée est très rythmée. On essaie de faire beaucoup de choses différentes, de rencontrer, voilà, de tout cadrer dans la journée. Et par contre, j'essaie d'être à la maison avant 19h30 pour au moins le voir et pouvoir lui donner son biberon avant qu'il dorme, quoi. Donc il a fallu revoir un petit peu les priorités de vie et ce qui nous semble tolérable ou non.
Est-ce que vous vous sentez différent du papa que vous avez eu vous-même ?
Je sais pas dire parce que j'ai pas de souvenir de mon père quand j'avais 5 mois. Je pense que je suis pas le père que j'ai eu parce que je suis le père que je suis. Qu'on est tous différents, qu'on trouve tous notre rythme et on se construit aussi avec l'enfant qu'on a. Donc je pense que non, je suis pas le père que j'ai eu. Et probablement que demain, je ne serai pas le père que je suis aujourd'hui parce que Lucien vient à changer aussi et on s'adapte. En fait, c'est hyper enrichissant, je trouve, cette nouvelle vie parce que d'une semaine à l'autre, les choses changent, les choses évoluent. Quand on pense trouver quelque chose qui fonctionne, un rythme qui fonctionne, par exemple le matin, c'est moi qui m'occupe de Lucien pendant que ma femme se prépare, sort le chien et va au boulot. C'est moi qui l'habille, fait sa toilette, lui donne à manger et l'emmène chez la nounou. Le soir, voilà, je rentre, il prend son bib et en fait, d'une semaine à l'autre, ce rythme change complètement. Il faut se réinventer, il faut trouver, parce que lui s'éveille de plus en plus. Réclame de plus en plus aussi d'attention, mais pas forcément le même besoin qu'avant. Et donc, d'une semaine à l'autre, ça change. Et ça, c'est très enrichissant.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous faites mieux que votre compagne ou l'inverse ?
Ça, c'est un jugement de valeur, je ne sais pas. Je ne voudrais pas qu'elle m'en veuille. Non, je trouve que c'est une maman formidable, en vrai. Je ne l'imaginais pas comme ça. Ça fait longtemps, on s'est rencontrés au lycée. On a évolué tous les deux, hein. On n'est plus du tout la même personne qu'on était à l'époque. Et c'est un petit peu bête à dire, mais je ne l'imaginais pas forcément dans son rôle de mère. J'avais pas d'attente particulière. Mais quand je la vois interagir avec notre fils, Je trouve que c'est vraiment incroyable. Quand elle le voit, elle est heureuse, alors que ça peut être extrêmement difficile. On peut pleurer d'épuisement. Le fait de le voir, de l'avoir dans les bras, c'est, elle le réconforte et elle puise une énergie incroyable dedans. Et ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Est-ce que je fais mieux ? Non. Est-ce que je fais aussi bien ? Oui, probablement, pour certaines choses. Après, je pense que j'ai moins de patience qu'elle. C'est-à-dire que quand il pleure beaucoup, je vais être plus vite irritable. Mais après, j'adore lui donner à manger, ce qu'elle n'aime pas forcément. Enfin, voilà, on a chacun nos points où on se sent plus à l'aise, quoi.
Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes futurs papas ?
De prendre leur mois de congé paternité. Parce que si on ne prend pas ce mois de congé paternité, on ne donnera pas plus. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement sente une vraie implication des pères. Que si on ne prend pas ce congé paternité, on ne se rend pas compte et on ne prend pas cette chance de découvrir notre enfant. Donc ça, c'est essentiel. Parce que c'est dans ces premiers mois que les liens se font d'attachement et d'interaction avec notre enfant. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas écouter les gens. Les gens sont... L'entourage, familial, professionnel, les amis, ont toujours plein de bons conseils qui se veulent bienveillants. Mais finalement, ce qui est essentiel, je pense, c'est de se faire confiance, d'écouter son enfant, d'écouter ses besoins et de faire le mieux qu'on peut avec ça.
Et dernière question, est-ce que le couple d'avant, l'enfant, existe encore ?
Le couple est différent. J'entendais lors d'une discussion précédente qu'il y avait pratiquement 25% des couples qui se séparaient dans la première année de vie d'un enfant. Nous, au contraire, je pense que ça nous a rapprochés dans la difficulté, hein, avec ces premiers mois qui ont été difficiles. Mais on a appris de nouvelles facettes du binôme qu'on ne connaissait pas, qu'en tout cas que moi, je ne connaissais pas d'elle, de nouvelles forces. Et je pense que notre couple, il est plus fort qu'avant. Ouais.
Merci, Kevin.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Cette série de podcasts a été réalisée par BM Music Prod en collaboration avec Mélissa Ferdouze, chargée de projet au sein de l'association Auréane, et le docteur Patricia Dedang, pédopsychiatre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.